Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Christophe Coin.
Bonjour.
Alors Christophe Coin, cette fois-ci, nous vous rencontrons pour une nouvelle aventure, une énième encore aventure, avec toujours des aventures. Cette fois-ci, cette aventure s'intitule Parenthèse, c'est en fait une nouvelle collection de laborie classique. Alors je crois qu'il y a une sorte un petit peu de phrase un peu au-dessus de, ce titre de cette collection, c'est en connaissant mieux les petits maîtres, nous pouvons espérer comprendre les grands. Alors parlez-nous un peu de cette collection et après nous évoquerons le premier volume de cette parenthèse, ou pluriel plutôt d'ailleurs.
En fait, ça vient de deux faits qui sont le premier que nous, dans nos saisons musicales, on essaye de faire connaître des compositeurs méconnus et des œuvres qui ne sont plus au répertoire. Et donc, ce travail nécessite évidemment une préparation de recherche, de partition, d'édition de partition, un travail musicologique et historique. Et même parfois organologique, parce qu'on veut que ce répertoire soit servi sur les instruments les plus plausibles d'après les critères de l'époque. Et j'ai souhaité documenter un peu ce travail, parce que bon, c'est vrai que les maisons de disques aujourd'hui ont tendance à favoriser le grand répertoire, celui que tout le monde connaît, et ne se lance pas trop, ne prend pas trop de risques avec des compositeurs dont personne ignore le nom, dont tout le monde ignore le nom. Donc, pour parler de Grosse, qui
voilà, il faut préciser que le nom effectivement du premier acteur de cette collection, donc c'est Johann Benjamin Grosse, qui est né donc en 1809 et qui est mort en 1848. Et le volume donc est intitulé Ballade romantique, un jeu de mots sur ballade avec un L, deux L, pour jouer sur l'aspect de la promenade et de la forme musicale. Alors ce monsieur Grosse, qui était violoncelliste et compositeur, parlez-nous un peu de lui et peut-être aussi nous dire simplement pourquoi il est tombé un peu dans l'oubli. C'est un énième acteur comme ça tombé dans l'oubli, mais parlez-nous un peu de ce
Alors il n'est pas un peu tombé dans l'oubli, il est même plus présent dans les dictionnaires musicaux, le Grove ou le MGG en Allemagne, alors qu'il était cité dans tous les dictionnaires au 19e comme un violoncelliste très important et un bon compositeur surtout de musique de chambre puisqu'il était quartettiste surtout. En 2009, c'était le bicentenaire, donc autour de Mendelssohn, nous avions,
puisqu'il l'a connu d'ailleurs.
Il l'a connu, il a joué avec lui, donc nous avions fait un programme autour de Leipzig, et on avait commencé à travailler sur ce compositeur.
C'est la première fois que vous en entendiez parler, vous, personnellement ?
J'en avais entendu parler par un musicologue allemand qui m'avait dit « il a écrit des beaux quatuors, tu devrais aller voir de ce côté-là ». Et donc voilà, c'est ce qui explique le décalage, si vous voulez, entre le bicentenaire et aujourd'hui, c'est que entre le programme de concert, qui est évidemment où on joue une œuvre ou deux œuvres, il faut pour un disque évidemment compléter. Donc voilà, ça prend une année pour réaliser tout ce travail. Donc le disque sort alors que l'anniversaire est passé, mais il y aura toujours ce décalage dans cette collection parenthèse. Alors elle s'appelle parenthèse parce que on ouvre un peu des parenthèses justement dans le grand répertoire et on s'octroie un peu de temps, aussi bien avec l'ensemble baroque de Limoges qu'avec le quatuor mosaïque, pour, en dehors des grands quatuors de Beethoven, de servir des compositeurs qui nous paraissent injustement oubliés.
Vous précisez que chaque chose est un peu effectivement conçue comme un projet, c'est-à-dire il y a tout cet aspect musicologique, organologique, comme vous avez dit, de recherche, etc. Il y a la présentation aussi donc de l'intéressé, on va dire. Donc il y a un livret avec. Préciser que si on l'achète en numérique sur Qobuz, le livret numérique est encore même est dense. Il y a toute une iconographie et des textes assez passionnants. Mais il y a aussi effectivement la présentation, la forme, c'est-à-dire le choix des œuvres et la volonté de la présenter comme un concert, en fait.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça, Balade romantique, c'est effectivement un jeu de mots, comme vous avez dit. Et parce que normalement, ce disque devrait s'écouter comme un concert. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent un disque d'un bout à l'autre, mais moi, déontologiquement, ça m'intéresse de concevoir ce programme-là comme quelque chose de... C'est pour ça que c'est aussi un peu assez varié. Il y a des pièces pour violoncelle mélangées avec des leaders, ensuite un quatuor... Et on avait déjà initialisé ça avec Boëli, qui n'était pas dans la même collection, mais c'était le même principe, en fait. Donc c'est décliné sous deux formes, soit en disque physique, CD physique, présentation un peu originale, et puis en téléchargement. Et dans les deux cas, donc dans le disque, il y a un livret minimum, un peu, et le livret complet, donc avec description du piano, d'époque, etc., et sur... En téléchargement.
Cette musique, elle vous touche de quelle manière quand vous avez découvert toutes ces partitions, parfois jamais enregistrées en plus, j'imagine.
Non, absolument pas connu. Il y a plus de, je pense, une cinquantaine d'opus qu'a écrit Gross, par exemple. Donc quatre quatuors, beaucoup de musique pour violoncelle, évidemment, puisqu'il était violoncelliste. C'était un des quartettistes les plus appréciés à son époque. Il jouait avec Ferdinand David, qui était un violoniste très important. Et Vieuxtemps, qui était présent à Saint-Pétersbourg en même temps que Gross, disait que tous les violonistes se disputaient la chance et l'honneur de jouer avec lui en quatuor parce qu'il était extraordinaire. Apparemment, c'était quelqu'un de très sensible. On le sent dans sa musique. On sent des influences, évidemment, un petit peu de Schubert, un peu de beaucoup de Mendelssohn, un peu de Schumann, mais parfois même du Dvorak. Ses voyages qui l'ont emmené... Dans les pays, donc jusqu'en Russie, il s'est inspiré beaucoup de musique populaire de tous les pays qu'il a traversés. Et je trouve que sa musique est un petit peu, parfois un peu brouillon, c'est-à-dire il a beaucoup d'idées, des très jolis thèmes. Évidemment, ce qui manque, et c'est souvent le cas, la différence entre les petits maîtres et les grands, c'est d'agencer tout ça et de faire un peu de l'ordre dans leurs idées. Ce que, évidemment, quelqu'un comme Beethoven ou Mendelssohn arrive magnifiquement à faire. Mais quand même, je trouve que c'est important de connaître ces gens-là pour justement... apprécier d'autant plus ce que nous ont apporté les immortels.
Dans le livre, effectivement, on parle de belle opposition entre la simplicité justement des mélodies et l'élaboration des harmonies sur cette...
Oui, il n'hésite pas à faire des modulations abruptes et puis à amener des idées rythmiques tout d'un coup. Donc je pense que lui, dans sa tête, se racontait une histoire. C'est un petit peu difficile de rentrer dans le monde d'un personnage comme ça, parce que c'est un langage auquel on n'est pas forcément habitué. Et donc ça prend un peu de temps, et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on veut bien servir la musique des petits maîtres, il faut y consacrer autant de temps que pour les grands, avec plus ou moins de bonheur. Mais c'est quand même un travail très intéressant, et même si on reste un peu sur sa fin du résultat, peut-être des fois, parce que justement on n'a pas réussi suffisamment à se plonger dedans, les musiques en général valent la peine d'être connues. Alors ce type de travail, on le faisait autrefois dans les radios, Radio Cologne, à Bremen, à la BBC, même à France Musique. Et étant donné que les radios n'ont plus cette politique, de passer une après-midi pour travailler sur un compositeur, faire une émission d'une matinée qui lui est consacrée, c'est pas une qualité CD, mais c'était quand même un travail assez approfondi. Tout ça n'existe pas, donc cette collection parenthèse remplace un peu ça.
On explique justement que, si on prend cet exemple-là, donc c'était pas quand même un obscur personnage, il était dans un milieu, il était connu, vous avez cité des anecdotes, il a fréquenté des grands musiciens, tombe comme ça complètement dans l'oubli. Il y a toujours les modes, il y a parfois des mystères dans l'histoire de la musique, mais comment on explique comme ça, il n'y a aucune trace, qu'il n'y ait aucun enregistrement, c'est...
Je pense que ça vient du fait que les éditions étaient assez fournies de son vivant, mais elles n'ont pas été rééditées. Donc on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver les partitions. Il y a encore beaucoup de puces qui sont introuvables. Je pense qu'il faut aller voir du côté de Saint-Pétersbourg où il a fini sa vie. Mais donc il y a ce fait-là. Il y a le fait que sa technique de violoncelle est quand même très spéciale, très personnelle, peut-être pas aussi académique que d'autres compositeurs, d'autres grands violoncellistes comme Grootsmacher de l'époque, qui ont fait vraiment école, si vous voulez, même encore aujourd'hui.
Il déroutait d'une certaine manière ?
Je pense qu'il déroutait un peu, son style déroutait, peut-être sa technique de violoncelle. Et donc, il a été moins... Même s'il a écrit beaucoup d'ouvrages pédagogiques pour le violoncelle, des duos, de toutes sortes de niveaux... je crois que son école n'a pas perduré, si vous voulez.
Est-ce que votre approche est différente quand justement vous défrichez comme ça des terres quasi inconnues, vierges, sans aucune, j'allais dire pas arrière-pensée, mais sans aucune trace discographique d'autres enregistrements, quand vous êtes un peu le premier finalement à faire découvrir cette musique, presque à la créer, on pourrait presque dire, d'une certaine manière, puisqu'elle a été peut-être non entendue pendant des siècles. Comment vous, personnellement, le musicien que vous êtes, approche ce genre de... Enfin, cette démarche-là, elle est particulière, j'imagine, pour vous.
Alors, heureusement, les partitions sont assez précises, déjà, contrairement à la musique baroque, ou encore d'autant plus médiévale, où là, vraiment, c'est de la spéculation, souvent. À l'époque, surtout les compositeurs-interprètes étaient assez précis, parce qu'ils voulaient, justement, qu'on joue leur musique le plus possible comme eux la voulaient. Donc, ils donnent beaucoup de doigté, beaucoup de coups d'archet, et une fois qu'on a enlevé les quelques erreurs d'impression qu'il y a, on s'aperçoit qu'on doit rentrer dans son type de technique, de phrasé. Et c'est, comme je disais, très, très personnel. Alors j'essaye de respecter ça à la lettre, des doigtés qui me paraissent à première vue complètement aberrants. Alors on a tendance à les corriger, à dire « ben non, je vais faire ça, c'est plus facile ou c'est plus naturel ». Mais en fait, il faut se forcer un peu pour comprendre pourquoi il a choisi ses doigtés, et on découvre des choses, des idées que lui voulait apporter.
Le résultat vous a ébranlé, enfin vous a chamboulé, vous avez dit c'était un petit maître certes, mais malgré tout, toutes ses spécificités.
Moi c'est une musique qui me touche beaucoup parce qu'elle est très intègre. On sent quelqu'un qui est hypersensible, qui est vraiment romantique à 100%, voilà. et qui a cette espèce de... je dirais de naïveté un peu infantile et qui croit jusqu'au bout, et voilà, et dans ces leaders par exemple qui sont très simples, au début, la première fois que je les ai lus, je leur ai dit, oh, je pensais non, c'est de la musique trop simple, on va pas faire ça, et en fait en les travaillant avec le chanteur, cette simplicité a un charme fou et finalement très poétique et sert très très bien le texte.
J'imagine peut-être déjà des idées, des projets par rapport à cette collection pour les futurs inconnus qu'on nous allons découvrir peut-être.
Bon, on a déjà quelques musiques engrangées qui ne demandent qu'à être éditées, donc il faut travailler aussi sur les livrets, c'est un gros travail. Et on a la prochaine sortie, ce sera donc deux disques de Félicien David. Alors là, on espère que ça va tomber encore dans l'anniversaire de 2010. Un autre romantique français un peu trop oublié. Et puis, Albrecht Berger, donc c'était aussi en 2009, l'anniversaire, la même année que Haydn. Alors lui, c'est le côté classique, autant que Gross était romantique. C'était le professeur de Beethoven. Un compositeur qu'on a souvent trouvé académique, un peu gris, un peu trop sérieux. Et là, à travers des instrumentariums très, très osés, de la musique avec guimbarde, par exemple, un double concerto pour guimbarde et viol de gambe, des trios pour violon, piccolo, violon et alto, c'est-à-dire pas de basse, un autre pour alto, violoncelle, contrebasse, c'est-à-dire au contraire dans la cave. Voilà, il cherchait des sonorités particulières, et c'est un petit peu ça qu'on a voulu montrer, cet aspect-là, finalement assez aventurier, alors que le compositeur est souvent étiqueté comme quelqu'un de très académique.
Merci Christophe Coin. Je rappelle donc que cette nouvelle collection de Labori Classique s'intitule Parenthèse, et que donc le premier volume est consacré à Johann Benjamin Gross pour une ballade romantique. Merci Christophe Coin.
Merci à vous.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.